Ce que Dieu veut, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà maintenant la deuxième partie du volet qui s'intitule « La croix et la vie de l'âme ». Nous avons un corps pour pouvoir interagir avec le monde qui nous environne. Nous avons un esprit qui nous permet de communier avec Dieu et nous avons une âme, le siège de notre volonté, nos sentiments, pour nous exprimer et communiquer entre nous. À la chute, l'esprit d'Adam est mort. Son âme s'est hypertrophiée. Nous avons une âme, comme Adam, qui prend toute la place. Et la religion, c'est servir Dieu par son âme. Alors que la foi, c'est être en communion par son esprit avec Dieu. Ce qu'il a fait par la nouvelle naissance, c'est de nous renouveler entièrement. Donc, nous avons un problème maintenant que nous sommes renouvelés. Il faut que notre âme reprenne sa place, qu'elle n'ait plus les prérogatives qu'elle veut s'attribuer de domination en nous. Un missionnaire rapporte cette expérience. Peu de temps après ma conversion, j'allais prêcher l'évangile dans les villages. J'avais reçu une bonne éducation et je connaissais bien les Écritures. Je me considérais donc tout à fait capable d'enseigner les gens de la campagne, parmi lesquels il y avait beaucoup de femmes illettrées. Mais après quelques visites, je découvris que malgré leur ignorance, ces femmes avaient une connaissance intime du Seigneur. Je connaissais le livre qu'elles lisaient avec difficulté, mais elles connaissaient celui dont parle le livre. J'avais une richesse dans la chair. Elles avaient une richesse dans l'esprit. Combien de chrétiens aujourd'hui cherchent à enseigner les autres comme je le faisais alors, en grande partie en s'appuyant sur leurs capacités charnelles. Je rencontrai un jour un jeune frère. Jeune, il l'était en année, mais il avait une connaissance intime du Seigneur. Le Seigneur l'avait amené par beaucoup d'épreuves à cette connaissance de lui-même. Au cours de notre entretien, je lui demandais « Frère, qu'est-ce que le Seigneur t'a enseigné ces derniers jours ?» Une seule chose, c'est que je ne puis rien faire en dehors de lui, me répondit-il. Veux-tu vraiment dire que tu ne peux rien faire ? Oh non, répliqua-t-il, je puis faire beaucoup de choses, mais c'est précisément mon problème. J'ai toujours eu une telle confiance en moi, je sais bien que je suis capable de faire quantité de choses. Qu'entends-tu alors en disant que tu ne peux rien faire en dehors de lui ? Le Seigneur m'a montré que moi, je puis faire n'importe quoi, mais qu'il a déclaré, lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il en résulte donc que tout ce que j'ai fait, tout ce que je puis faire sans lui, n'est rien. Il nous faut arriver à cette appréciation des choses. Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas faire beaucoup de choses, car nous le pouvons. Nous pouvons organiser des réunions, édifier des églises, nous pouvons aller jusqu'aux extrémités de la terre et fonder des missions, et nous pouvons paraître porter du fruit, mais souvenons-nous de la parole du Seigneur, « Toute plante que mon Père Céleste n'a point plantée sera déracinée. » Matthieu 5, 13. Dieu est le seul créateur légitime dans cet univers. Tout ce que vous projetez et mettez sur pied à son origine, dans la chair, et n'atteindra jamais le domaine de l'esprit, malgré tout le sérieux avec lequel vous invoquerez la bénédiction de Dieu sur votre effort. Cela peut se prolonger durant des années, et vous penserez alors qu'une mise au point ici, une amélioration là, pourront élever votre œuvre à un niveau supérieur. Mais cela est impossible. L'origine d'une chose détermine sa destination. Et ce qui est de la chair à l'origine, ne pourra jamais devenir spirituel par aucun perfectionnement. Ce qui est né de la chair est chair et ne sera jamais autre chose. Tout ce que nous pouvons accomplir par nous-mêmes n'est rien aux yeux de Dieu, et il nous faut accepter l'appréciation de Dieu et reconnaître que ce n'est rien. La chair ne sert de rien. Jean 6, verset 63. Seul ce qui vient d'en haut peut demeurer. Nous ne pouvons pas voir cette vérité simplement parce que nous l'entendons. Il faut que Dieu nous enseigne ce qu'elle signifie, en mettant le doigt sur une chose qu'il voit en nous et qu'il nous dise « Ceci est de la nature, ceci a sa source dans la vieille création, ceci ne saurait subsister. » Jusqu'au moment où Dieu interviendra de cette manière, nous pourrons être d'accord en principe, mais nous ne pourrons pas le voir réellement. Nous pourrons approuver cet enseignement et même en jouir, mais nous n'aurons jamais vraiment horreur de nous-mêmes. Mais un jour viendra où Dieu ouvrira nos yeux. Face à une situation particulière, nous devrons dire, comme par révélation, « Cela est souillé, c'est impur, Seigneur, je le vois. » Ce mot « pureté » est un mot précieux. Je l'associe toujours à l'esprit. L'impureté signifie « mélange ». Lorsque Dieu ouvre nos yeux et nous fait voir que la vie naturelle est quelque chose qu'il ne pourra jamais employer dans son œuvre, nous découvrons que nous cessons de jouir de cette doctrine. Nous nous prenons plutôt en horreur à cause de l'impureté qui est en nous, mais quand nous en sommes là, Dieu commence son œuvre de délivrance. Nous considérons dans un instant comment Dieu a pourvu à cette délivrance, mais il nous faut encore nous arrêter un peu sur cette question de la révélation. Il est évident que si on n'est pas décidé à servir le Seigneur de tout son cœur, on n'éprouvera pas le besoin de lumière. Ce n'est que lorsqu'on a été saisi par Dieu et que l'on recherche à avancer avec lui que l'on sent combien la lumière est nécessaire. Il y a en nous un besoin fondamental de lumière pour connaître la pensée de Dieu, pour savoir ce qui est de l'esprit et ce qui est de l'âme, pour connaître ce qui est divin et qui est simplement de l'homme, pour discerner, ce qui est vraiment céleste et ce qui est terrestre, pour saisir la différence entre les choses qui sont spirituelles et les choses qui sont charnelles, pour savoir si c'est réellement Dieu qui nous dirige ou si nous marchons par nos sentiments, nos impressions et notre imagination. Lorsque nous sommes arrivés au point où nous voulons suivre Dieu en toute chose, nous découvrons que la lumière est la chose la plus nécessaire dans la vie chrétienne. Un pasteur rapporte cette constatation. Lors de mes entretiens avec des frères et sœurs plus jeunes, une question revient toujours à nouveau. Comment puis-je savoir si je marche dans l'Esprit? Comment puis-je discerner si telle impulsion vient du Saint-Esprit ou de moi-même? Il semble que ce problème les préoccupe tous, mais quelques-uns sont allés plus loin. Ils essayent de s'analyser, de faire de l'introspection, et en le faisant, ils sont entraînés dans un esclavage plus profond. Cette attitude est réellement dangereuse pour la vie chrétienne, car on ne parviendra jamais à la connaissance intérieure par ce chemin aride de l'analyse de soi. Il ne nous est dit nulle part dans la parole de Dieu d'examiner notre propre état intérieur. Cela nous amènerait à l'incertitude, au déséquilibre et au désespoir. Il semble y avoir deux exceptions. L'une se trouve dans 1 Corinthiens 11, 28 et 31 et l'autre dans 2 Corinthiens 13, 5. Mais le premier passage nous exhorte à nous examiner nous-mêmes afin de savoir si nous reconnaissons le corps du Seigneur ou non, et ceci en relation avec la table du Seigneur, et non avec une connaissance de soi-même. Dans le second de ces passages, Paul nous donne l'ordre sévère de nous examiner pour comprendre si oui ou non nous sommes dans la foi. Il s'agit de savoir si une foi fondamentale existe en nous, de savoir si effectivement nous sommes chrétiens. Cela n'a aucun rapport avec notre marche journalière dans l'esprit, ni avec notre connaissance de nous-mêmes. Il est vrai que nous devons nous connaître. Il faut que nous sachions ce qui se passe en nous. Nous n'avons pas le droit de nous reposer sur un oreiller de paresse, de faire fausse route et d'être complètement inconscient ou d'avoir une volonté de faire tout en pensant être dans la volonté de Dieu. Mais cette connaissance de soi ne nous vient pas en nous regardant nous-mêmes, en analysant nos sentiments et nos mobiles et tout ce qui se passe en nous, pour essayer ensuite de comprendre si nous marchons dans la chair ou dans l'esprit. Nous avons dans les psaumes plusieurs passages qui illuminent cette question. Le premier se trouve dans le psaume 36 au verset 10. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Il y a là deux lumières. Il y a ta lumière, et lorsque nous sommes entrés dans cette lumière-là, nous voyons la lumière. Il y a une différence entre ces deux lumières. Nous pourrions dire que la première est objective et la seconde subjective. La première lumière est celle qui appartient à Dieu et qui est répandue sur nous. La seconde est la connaissance qui nous est donnée par cette lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Nous connaîtrons quelque chose, nous en aurons une certitude, nous verrons. Ce n'est pas en nous tournant sur nous-mêmes ni en nous obligeant à un examen introspectif que nous serons amenés à cette clarté. Non, c'est lorsque la lumière nous vient de Dieu que nous voyons. Cela paraît si simple. Si nous voulons assurer que notre visage est propre, que ferons-nous? Est-ce que nous tâterons soigneusement avec nos mains? Sûrement pas. Nous prendrons un miroir et nous nous approcherons de la lumière. À cette lumière, tout deviendra clair. Nous ne verrons jamais rien, ni en touchant, ni en analysant. La vision ne nous vient que par la lumière de Dieu qui pénètre en nous. Et lorsqu'elle est entrée en nous, il ne nous est plus nécessaire de demander si une chose est bonne ou mauvaise. Nous savons. Nous nous souvenons aussi de ce que dit le psaume 139 au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Nous nous rendons bien compte, n'est-ce pas, de ce que signifie cette demande « sonde-moi ». Elle ne signifie certainement pas que je me sonde moi-même. « Sonde-moi » signifie « toi, sonde-moi ». C'est de cette manière que nous vient la lumière. Il faut que Dieu entre en moi pour me sonder. Ce n'est pas à moi à le faire. Mais cela ne veut pas dire que je dois avancer aveuglément sans me soucier de mon état véritable, certainement pas. Ce que nous désirons souligner, c'est ceci. Tous mes examens de conscience, malgré tout ce qu'ils me révéleront de choses qui ont besoin d'être mises en ordre, n'iront jamais en dessous de la surface. Une vraie connaissance de moi-même ne viendra jamais par mes propres efforts, mais uniquement lorsque je laisserai à Dieu le soin de me sonder. Mais nous demanderons peut-être ce que veut dire en pratique se placer dans la lumière. Comment réaliser cela? Comment pouvons-nous voir la lumière par sa lumière? Ici encore, le psalmiste vient à notre aide. Tes paroles sont une révélation qui éclaire. Elles donnent de l'intelligence au simple. Psaume 119, verset 130. Dans les choses spirituelles, nous sommes tous simples. Nous dépendons de Dieu qui nous donne l'intelligence et nous en avons besoin particulièrement en ce qui concerne notre véritable nature. Dans le Nouveau Testament, le passage qui établit cela le plus clairement se trouve dans l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est le juge des intentions et des pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, versets 12 à 13. Oui, c'est la parole de Dieu, la parole pénétrante de la vérité, qui nous donne la réponse à nos questions. C'est elle qui discerne nos mobiles et définit pour nous leur vraie source, l'âme ou l'esprit. Je pense que maintenant nous pouvons passer à l'aspect doctrinal, de l'aspect doctrinal du problème à son aspect pratique. La plupart d'entre nous, j'en suis certain, nous désirons avoir une vie intègre devant Dieu. Nous avons fait des progrès et nous ne discernons rien en nous qui soit très mauvais. Et soudain, à mesure que nous avançons, nous faisons l'expérience pratique de cette parole. Tes paroles sont une révélation qui nous éclaire. Dieu s'est servi de l'un de ses serviteurs pour nous mettre en face de sa parole, et cette parole a pénétré dans notre cœur. Peut-être, tandis que nous étions devant Dieu, en nous attendant à lui, une parole est revenue à notre mémoire, ou bien lue à cet instant les Saintes Écritures et est entrée en nous avec puissance. Nous voyons alors quelque chose que nous n'avions jamais remarqué auparavant. Nous sommes convaincus. Nous savons exactement ce qui est mal et nous élevons nos yeux au Seigneur pour lui confesser « Seigneur, je le vois, il y a là de l'impureté, il y a du mélange. Combien j'étais aveugle !» Et dire que pendant durant tant d'années, j'ai été dans cette erreur sans jamais m'en rendre compte. La lumière entre en nous et nous voyons la lumière. La lumière de Dieu nous donne la lumière sur nous-mêmes. C'est un principe fondamental. Toute connaissance de soi nous vient de cette manière. Il se peut que cette révélation ne nous vienne pas toujours par les Écritures. Nous pouvons avoir été en contact avec des enfants de Dieu qui avaient une réelle connaissance du Seigneur et en priant ou en parlant avec eux, nous avons vu la lumière de Dieu qui rayonnait d'eux, quelque chose que nous n'avions jamais imaginé auparavant. Watchman Nee nous rapporte une de ces rencontres. J'ai connu une de ces personnes qui est maintenant auprès du Seigneur, mais le souvenir que j'ai gardé d'elle est celui d'une chrétienne de lumière. Dès que j'entrais dans sa chambre, j'étais immédiatement conscient de la présence de Dieu. À cette époque, j'étais très jeune. Il n'y avait que 2 ans que j'étais converti. J'avais une foule de projets, une foule de belles pensées, une foule de plans que je désirais soumettre au Seigneur, une centaine de choses qui me paraissaient devoir être merveilleuses si elles pouvaient être réalisées. Je venais à elle avec toutes ces choses pour essayer de la persuader, pour lui expliquer qu'il faudrait faire ceci ou cela. Avant que j'aie pu ouvrir la bouche, elle me disait simplement quelques paroles d'une façon très naturelle. La lumière se faisait. Je me sentais tout confus. Tout mon besoin de faire venait tellement de moi. C'était si charnel. Quelque chose se passait alors en moi. J'étais amené à la place où je pouvais dire « Seigneur, ma pensée ne s'attache qu'aux activités de la créature, mais il y a ici quelqu'un qui ne s'en soucie pas du tout. » Elle n'avait qu'une seule raison d'être, un seul désir, et c'était Dieu. Sur la première page de sa Bible étaient inscrits ces mots « Seigneur, je ne veux rien pour moi-même. » Oui, elle vivait pour Dieu seul. Et lorsqu'il en est ainsi, vous trouvez toujours qu'une telle personne est baignée de lumière et que cette lumière illumine les autres. C'est le véritable témoignage. La lumière obéit à une seule loi. Elle éclaire partout où elle est admise. C'est la seule condition qu'elle pose. Nous pouvons nous fermer à elle. C'est la seule chose qu'elle craigne. Mais si nous nous ouvrons et si nous nous abandonnons à Dieu, il se révélera. Les difficultés viennent de ce que nous gardons des coins réservés, des réduits fermés et verrouillés dans nos cœurs, où nous pensons avec orgueil avoir raison. Notre défaite consiste alors non seulement dans le fait que nous avons tort, mais dans le fait que nous ne savons pas que nous avons tort. L'erreur peut être une question de force naturelle. Nous pouvons voir cette force naturelle chez les autres, mais ne pas la voir en nous-mêmes. Nous avons besoin d'être sincères et humbles devant Dieu et de nous ouvrir à lui. Ceux qui sont ouverts peuvent voir. Dieu est lumière, et nous ne pouvons pas vivre dans sa lumière et rester dans l'ignorance. Répétons encore avec le psalmiste, « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide. » Psaume 43, 3. Nous rendons grâce à Dieu de ce que, aujourd'hui plus que jamais, les chrétiens sont conscients du péché. Et bien, en bien des lieux, les yeux des chrétiens ont été ouverts sur le fait que la victoire sur les péchés, sur chaque péché, est importante dans la vie chrétienne. Il en résulte que beaucoup marchent plus près du Seigneur pour chercher la délivrance et la victoire sur ses péchés. Nous louons notre Seigneur pour chaque mouvement qui rapproche de lui, pour tout mouvement qui ramène à une vraie sainteté devant Dieu. Et pourtant, cela ne suffit pas. Il y a une chose qui doit être touchée, c'est la vie même de l'homme et non seulement ses péchés. La question de la personnalité de l'homme, de l'énergie de son âme, voilà le cœur du problème. En ramenant tout à la question des péchés, on reste encore à la surface du problème. Tant que la sainteté n'est considérée que sous l'angle du péché, elle demeure quelque chose d'extérieur, de superficiel. On n'a pas encore atteint la racine du mal. Adam n'a pas fait entrer le péché dans le monde en commettant un meurtre. Cela arrivera plus tard. Adam fit entrer le péché en choisissant le chemin par lequel se développerait son âme afin de pouvoir marcher seul, indépendamment de Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu s'assure une race d'hommes qui servira à sa gloire et qui sera son instrument pour l'accomplissement de son dessein dans l'univers, la vie de chacun de ces hommes, oui, leur respiration même, sera dépendante de lui. Il sera pour eux l'arbre de vie. Le besoin que je ressens de plus en plus pour moi-même et pour nous tous, enfants de Dieu, c'est de rechercher devant Dieu une véritable relation, une véritable révélation de nous-mêmes. Je le répète, je n'entends pas par là que nous devions continuellement nous examiner nous-mêmes en nous demandant, voyons si ceci est de l'âme ou de l'esprit. Cela ne nous amènerait à rien, ce n'est qu'obscurité. Non, les Écritures nous montrent comment les hommes de Dieu sont arrivés à une connaissance d'eux-mêmes. C'est toujours par une lumière venue de Dieu, et cette lumière est Dieu lui-même. Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Pierre, Paul, Jean, tous sont arrivés à une connaissance d'eux-mêmes parce que le Seigneur s'était lui-même manifesté à eux avec éclat. Et cette lumière avait fait jaillir la révélation et la conviction. Alors je dis, malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont souillées, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, 5. La splendeur qui se voyait autour de lui était pareille à celle de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Cette vision représentait l'image de la gloire de l'Éternel. À sa vue, je tombais sur ma face et j'entendis une voix qui parlait. Ézéchiel 1, 28. Je restais donc seul, et à la vue de cette grande apparition, je demeurais sans force. Mon visage changea de couleur, il devint livide et je perdus toutes mes forces. Daniel 10, verset 8. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Luc 22, versets 61 et 62. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Actes 9, 3 à 5. En le voyant, je tombai à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite sur moi et il me dit, « Ne crains point. » Apocalypse 1, verset 17. Nous ne connaîtrons jamais combien le péché est haïssable et combien nous le sommes en nous-mêmes, tant que cette lumière éclatante de Dieu n'a pas jailli sur nous et en nous. Je ne parle pas d'une sensation, mais d'une révélation intérieure du Seigneur lui-même par sa parole. Elle fait pour nous ce que la doctrine seule ne saura jamais faire. Christ est notre lumière. Il est la parole vivante. Et lorsque nous lisons les Écritures, cette vie qui est en lui nous apporte la révélation. La vie était la lumière des hommes, Jean 1, 4. Une telle illumination peut ne pas se faire pour tous de façon soudaine, mais graduellement. Cependant, elle sera de plus en plus claire et pénétrante jusqu'à ce que nous soyons dans la pleine lumière de Dieu et que disparaisse toute notre confiance en nous-mêmes. Car la lumière est ce qu'il y a de plus pur au monde. Elle purifie, elle stérilise, elle tue ce qui ne doit pas exister. Dans son éclat, la division des jointures et des moelles devient pour nous un fait et cesse de n'être qu'un enseignement. Nous connaissons la crainte et le tremblement à mesure que nous comprenons la corruption de la nature humaine, la laideur de notre moi et la réelle menace qu'est pour l'œuvre de Dieu notre vie propre et l'énergie sans frein de notre âme. Comme jamais auparavant, nous voyons désormais combien Dieu doit agir sévèrement à l'égard de beaucoup de choses en nous, s'il doit se servir de nous. Et nous savons que sans lui, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais ici, la croix, dans sa signification la plus large, vient encore à notre secours. Et nous chercherons, dans le prochain volet, à comprendre un aspect de son œuvre qui touche et résout le problème de notre âme. Car seule une compréhension entière de la croix peut nous amener à cette place de dépendance qu'a volontairement accepté le Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5, 30.